D'abord, c'est l'heure de la revue de presse. Et ça, c'est votre affaire, Jean-Philippe Ballas. Bonjour.
Bonjour à tous.
Ce matin, on élargit.
Ouais, c'est écrit en gros à la une du JDD. C'est le ministre de la Santé qui vous le dit. Olivier Véran. Et la campagne de vaccination, bien sûr, c'est important. Dès demain, lundi, tous les plus de 55 ans y auront droit sans restriction. On élargit donc. Avec une particularité tout de même, puisque deux produits seulement sont concernés. Le petit nouveau, l'américain Johnson & Johnson, j'y reviendrai. Et surtout l'AstraZeneca, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il inspire toujours une certaine méfiance, tout du moins comme une hésitation. Ça ne m'étonne pas et ça ne m'inquiète pas, répond Olivier Véran. Il y a eu un signal de sécurité européen, dit-il. Et le ministre en est convaincu. La confiance est revenue. Oui, ça redécolle. Il signale d'ailleurs que pour la seule journée de vendredi, plus de 157 000 Français ont reçu une injection. Dans un pays où nous sommes désormais favorables à la campagne, à plus de 70%, reconnaissons-le, c'était loin d'être le cas il y a quelques mois encore. Sauf que, il suffit de feuilleter la Voix du Nord ce matin pour constater que dans les grands centres à piqûres, on goûte assez peu l'AstraZeneca. Exemple à Carvin, dans le Pas-de-Calais. L'endroit est ouvert tous les week-ends depuis la mi-janvier. Et hier, il restait des chaises libres dans la salle d'attente. C'est la première fois que le centre propose l'AstraZeneca. Et c'est aussi la première fois que les réservations n'affichent pas complet. Les gens ont peur, reconnaît Ginette, l'infirmière. Alors on essaie de les rassurer, mais c'est difficile. Comment faire? C'est toute la question sensible du fossé qu'il peut y avoir entre notre perception du risque et la réalité. Très intéressant, je le lis dans un article du Guardian, le journal britannique, où un spécialiste résume ainsi son point de vue. Pensez à toutes ces personnes qui s'inquiètent en avion quand le vol est un peu agité, mais qui n'ont aucun problème à monter en voiture, alors que nous savons que, statistiquement, le premier est plus sûr que la seconde. Bon, toujours est-il que si on ne prend pas de risque, on fait du surplace. Et là, nous avons tous besoin d'avancer. Mise au point de Colette sur le site de Mediapart. À 62 ans, Colette fait partie des volontaires pour tester le Johnson & Johnson dans un centre hospitalier de Gironde. Ce vaccin, à une seule dose, a bien reçu toutes les autorisations, je vous rassure, mais l'essai clinique se poursuit, précise Mediapart, puisque le feu vert européen sera de nouveau évalué dans un an. Autant continuer les recherches, voir par exemple si une deuxième dose apporte un effet booster, pourquoi pas. Oui, décidément, la science continue d'apprendre et de modifier parfois ses méthodes.
Et on en a d'ailleurs la parfaite illustration ce matin avec l'allongement du délai entre deux injections.
Absolument, et c'est une autre annonce importante d'Olivier Véran dans le JDD. Ici, on parle des ARN messagers, Pfizer, BioNTech et Moderna. Alors jusqu'à maintenant, on comptait 28 jours entre les deux rendez-vous. On va passer à 42 à partir de la mi-avril. Bref, pour faire simple, on espace de 4 à 6 semaines. Les scientifiques ont le recul suffisant, estime Olivier Véran. Le niveau d'immunité des moins de 70 ans le permet, visiblement. Et c'est une façon de mieux gérer les stocks et d'aller toujours plus vite. Pfizer et Moderna qui ont la cote. Moderna, dont le PDG est un Marseillais d'ailleurs, nous rappelle ce matin la Provence. Stéphane Bancel, 49 ans, encore inconnu il y a un an. Cet ingénieur était parti aux États-Unis, il s'est retrouvé à la table de Donald Trump, il l'a convaincu à l'époque. Eh bien le voici, Stéphane Bancel, qui fait une entrée fracassante dans le classement du magazine Forbes. 23e fortune mondiale, estimation 3,5 milliards de dollars. De l'audace, toujours de l'audace.
Voilà donc pour les vaccins. Et dans la presse de ce dimanche, il est aussi question de patrimoine, Jean-Philippe.
Oui, d'abord avec des nouvelles de Notre-Dame de Paris. Des photos du chantier où l'on s'aperçoit que les échafaudages impressionnants que l'on avait vus à l'extérieur sont désormais aussi à l'intérieur. Une forêt de métal qui grimpe le long du mur. C'est ce que nous dit le Parisien aujourd'hui en France. Reportage où l'on croise toutes sortes de métiers, des artisans érudits et passionnés. Tiens, tenez, je vous présente Mario D'Amico. Il a 42 ans, il est facteur d'orgue et c'est à lui que revient la délicate mission de redonner vie à l'orgue de Notre-Dame. Où l'on raconte que la dépose des 8000 tuyaux de l'instrument, cette dépose est aussi précieuse que fragile, l'opération doit se faire à la main. Chaque geste compte, l'objectif est toujours de rouvrir Notre-Dame en 2024. Du savoir-faire et du patrimoine aussi ce matin dans le bien public. C'est la défense du cassis de Dijon, messieurs, dames, où j'apprends qu'un fabricant chinois s'était mis en tête de déposer la marque Dijon, oui, là-bas, en Chine. Une gifle pour notre terroir. Pas question que d'autres s'approprient le fruit du travail de nos ancêtres, s'emportent les professionnels. Mais finalement, la justice chinoise vient de leur donner raison. La marque Dijon est interdite. Dijon, que vous verrez également dans le classement des villes où l'on vit le mieux. Dijon, la 25e place. La liste complète est dans le JDD. Comme quoi, en France, on n'a pas de vaccin, mais on a du cassis, toujours avec modération, bien sûr.
Oh, un petit kir avec du vin blanc, le cassis et le vin blanc.
C'est un peu votre coin, non ?
Eh ben oui, la Bourgogne, je connais bien. Merci beaucoup, Jean-Philippe Ballas.